Chapitre 15. Ils avaient suivi la berge de la rivière, ils revinrent sur leurs pas. Mais malgré les efforts de Madame Courteheuse pour forcer son mari à prendre part à la conversation, il resta morne. C'est à peine si, de temps en temps, il lâchait une parole, lui qui, au départ, était si loquace. Cela fut si sensible que Turlure ne put pas ne pas le remarquer. Mais s'imaginant que, dans la chaleur de la discussion, il avait blessé le notaire par quelques répliques trop raides, il s'appliqua à se montrer doux et affable, encore plus que d'habitude, pour se faire pardonner son moment de vivacité. Tout à coup, Courteheuse l'interrompit. « Est-ce que le garus est bon contre le sommeil ? » demanda-t-il. « Si le sommeil est provoqué par une digestion paresseuse, le garus est souverain. » Alors nous allons voir par le remède quelle est la cause de mon sommeil. Elle essaya de rompre les chiens, mais son mari ne s'y prêta pas. Figurez-vous, dit-il en s'adressant au pharmacien, qu'une fois ou deux par semaine, je suis pris d'un sommeil invincible. Invincible est exagéré, dit-elle vivement. Mais pas du tout. J'ai peine à gagner mon lit, et aussitôt couché, je m'endors comme plomb. Elle crut qu'elle devait contredire cette assertion, dangereuse peut-être. Tu t'imagines que tu dors lourdement, dit-elle, mais en réalité, tu respires avec un calme parfait comme un enfant. Cela est une heureuse indication, répondit Turlure. Éprouve une aussi bonne santé qu'une bonne conscience. Mieux que la veille, le sommeil dit ce que nous sommes au physique comme au moral, et je suis certain que le sommeil observé par un médecin intelligent peut le renseigner sur certains états, comme l'auscultation de l'appareil respiratoire, du cœur ou de l'abdomen le peut sur certains autres. Il n'en est pas moins vrai, continua Courteheuse, que malgré le calme de ce sommeil, je me réveille le matin difficilement et que je suis hébété. Décidément, l'entretien prenait la mauvaise tournure qu'elle avait redoutée. En tout cas, tu es le seul à t'en apercevoir, dit-elle. Ce qui prouve bien que cet hébétement n'existe que dans ton imagination. Avez-vous parlé de cela à votre médecin ? Demanda Turlure. Mais je n'ai pas de médecin. Annivelle n'est-il pas votre client ? Oui, mais je ne suis pas le sien. Dieu merci, nous n'avons jamais été malades. Et puis, vous savez, je ne crois pas beaucoup à la médecine et encore moins aux médecins. Au moins devez-vous croire à la chimie. « Vous voulez dire à la pharmacie ?»« C'est tout un bien souvent. »« Peut-être, mais le curieux serait de voir si les remèdes ne tuent pas plus de gens qu'ils n'en guérissent. »« Savoir les employer, tout est là. Nous préparons, le praticien administre. »« Alors on a administré bien mal, dit-elle, ce qu'on a donné à mon pauvre caniche, car certainement on me l'a tué. »« C'était de la liqueur de follet, autant que je me souvienne. » Elle me l'a empoisonné. Il est vrai que ces choses-là arrivent, quelquefois. C'est pour cela que vous voulez que je m'adresse à Annivelle ? Permettez, Annivelle est un de nos bons cliniciens, interne des hôpitaux de Paris, grand travailleur, intelligent, auteur de travaux hardis. Il est arrivé à Rouen, précédé d'une réputation dans le monde médical, et il s'est fait tout de suite une superbe clientèle. Et le grand travailleur de Paris est devenu un grand paresseux à Rouen. Je l'ai connu à ce moment, à l'occasion de son mariage, et j'ai assisté à cette transformation curieuse, celle d'un cerveau en un sac à écus. Comme si le travail de l'internat l'avait vidé et fourbu, il n'a plus eu d'énergie que pour courir les clients, et il a mis ce qui lui restait d'activité intellectuelle dans la musique, la peinture, la littérature, les bibelots. Il est de toutes les sociétés artistiques de Rouen. Il se montre dans toutes les fêtes, assiste à toutes les représentations du Théâtre des Arts où il est chic de paraître et personne n'est plus mondain que lui. Quand voulez-vous qu'il travaille ? Je suis sûr qu'il n'a pas ouvert un livre de médecine depuis 10 ans et s'il parle quelquefois de son métier, c'est pour blaguer les recherches ou les découvertes des nouveaux venus. Avec notre ingénieur, Annivelle est un des plus curieux exemples de cette paresse intellectuelle qu'on rencontre chez ceux qui ont surmené leur cerveau dans la jeunesse. Ils ne veulent plus, ils ne peuvent plus rien faire entrer dedans. Pour mettre les cailloux sur les routes, ça n'est pas bien grave. Mais pour soigner les malades, c'est plus inquiétant. Ce qui n'empêche pas que si j'étais malade, je l'appellerais volontiers. Alors vous revenez à votre idée de m'envoyer chez lui ?
Pas du tout, puisque je ne sais pas ce que vous avez, et même si vous avez quelque chose.
Elle se hâta d'intervenir pour détourner la conversation.
Mais M. Courteheuse n'a rien du tout. Il mange, va et vient, travaille comme à l'ordinaire. Il dort bien. Que lui répondrait un médecin à qui il se plaindrait de bien dormir ?
Ce n'est pas un bon sommeil, celui qui donne un réveil difficile.
Ainsi, chaque mot ramenait le danger qu'elle cherchait sans cesse à écarter. Cette promenade maudite ne finirait-elle jamais ?
Cependant, le moment le plus inquiétant n'était point passé. La marche, la conversation, la contradiction pouvaient empêcher le sommeil de peser sur lui. Mais bientôt, ils allaient s'asseoir dans la pharmacie. Alors, que se produirait-il ? Turlure n'était pas le premier venu. Il savait voir, observer, se rendre compte de ce qui se passait sous ses yeux. Et elle ignorait si le sulfonal ne produit pas des effets assez caractéristiques pour qu'un pharmacien ne puisse pas ne pas le reconnaître tout de suite dans le sommeil qu'il provoque. Avec un bavard comme lui qui aimait à professer, il n'y avait pas à espérer de pouvoir le faire taire. Déjà, son mari n'était que trop disposé à se préoccuper de ses crises de sommeil. Qu'un mot de Turlure réveillât en lui des soupçons, et il faudrait renoncer au rendez-vous de la nuit qui était sa vie même. Ce fut sous le poids de l'angoisse qu'elle entra dans la pharmacie, et cependant, elle devait se montrer gaie, enjouée comme à l'ordinaire, répondre aux politesses de Madame Turlure, aux prévenances de la belle-sœur, mais sans accaparer la conversation, pour que son mari pût y prendre part.
« Eh bien, quel effet produit le garus ?» demanda le pharmacien, après que Courteheuse eut vidé le verre qui lui avait été servi.
« Je ne remarque pas qu'il en produise aucun. »
C'est bien ce que je pensais. Votre envie de dormir ne provient pas d'une digestion paresseuse. Au reste, il faut attendre.
J'aimerais mieux me coucher.
Sur ce mot, Madame Courteheuse se leva, mais son mari ne parut pas disposé à quitter sa chaise.
Le fait est, dit Turlure, que vous donnez tous les signes de l'invasion du sommeil. Vos paupières se ferment, vos yeux se troublent.
Je n'y vois plus.
Vous bâillez, vous penchez la tête en avant.
Les bras me tombent du corps.
Allons nous coucher, dit Madame Courteheuse, se dirigeant vers la porte. Est-ce que, quand on est dans cet état, le mieux n'est pas de se mettre au lit ? Je trouve même qu'il y a longtemps que cela devrait être fait. Comme elle avait débité ces quelques paroles avec une vivacité qui trahissait de l'émotion, Turlure se méprit sur la cause qui la produisait.
Rassurez-vous, chère madame, il n'y a rien de grave dans l'état de votre mari.
Je l'espère bien.
Je sais ce qu'il a.
Ah ?
Parfaitement. Il n'y a pas besoin de l'observer longtemps pour être fixé sur son cas.
Et quel est mon cas ?
Demanda Courteheuse d'une voix empâtée.
Rien n'est plus éloigné de ma pensée que de vouloir prendre le rôle de médecin et de donner des consultations, chacun à sa place. Pharmacien je suis, pharmacien je reste. Certainement, on ne m'accusera jamais d'exercice illégal de la médecine. Pourtant, après vous avoir parlé d'Anivelle, alors que je ne vous avais pas observé, je ne peux pas ne pas vous dire maintenant que je crois que vous n'avez nul besoin de le voir et rassurer madame que j'ai peut-être alarmé.
Mais certainement, et beaucoup.
Je m'en suis aperçue.
Eh bien, chère madame, calmez vos craintes.
Monsieur Courteheuse n'a rien, n'est-ce pas ?
Si, il a quelque chose, mais pas ce que vous craignez.
En cela, au moins, il n'est pas malade.
C'est ce que je disais.
Alors pourquoi suis-je pris quelquefois de ces envies de dormir, comme ce soir par exemple ?
Parce que c'est une loi physiologique que toute excitation prolongée produit un épuisement qui se répare par le repos. Cela est reconnu depuis Aristote, qui, dans son livre « De somno et vigilia », à considérer le sommeil comme un effet du besoin de repos. Vous travaillez trop, mon cher monsieur Courteheuse, et cet excès de travail produit un épuisement qui exige impérieusement un repos réparateur, d'où votre besoin de sommeil. Qui est lassitudinis remedium, a dit Hippocrate.
Voilà qui est clair, s'écria madame Courteheuse.
Mais je n'ai pas travaillé aujourd'hui plus qu'hier, dit le notaire.
Peut-être, mais si vous avez recommencé aujourd'hui ce que vous avez fait hier,
Et si, à une fatigue ancienne, vous en avez ajouté une nouvelle, il n'est pas étonnant que cette excitation prolongée ait produit un épuisement exigeant un besoin de repos. D'ailleurs, vous pouvez être aujourd'hui dans un état tout différent de celui d'hier. Avez-vous pris du café ?
Oui.
Fort ou faible ?
Extrêmement faible aujourd'hui, extrêmement fort hier, répliqua Madame Courteheuse, saisissant cette balle.
Voilà déjà quelque chose. Qu'avez-vous mangé ?
Du gigot avec des laitues au jus.
Ah ah ! Et combien M. Courteheuse a-t-il mangé de laitues pour sa part ?
3 ou 4, il est très gourmand.
Voilà qui est mieux encore. Vous savez que la laitue, de la famille des Cynanthéraes chicoracées, est une plante somnifère par son suc blanc visqueux, notre tridas ou l'actucarium des Anglais, et qu'avec sa tige, nous préparons une potion narcotique. Je n'affirme pas que les 4 laitues mangées par M. Courteheuse soient la cause déterminante de son sommeil, mais dans les conditions où il se trouve, elles peuvent très bien avoir produit un effet anesthésique. Vous voyez donc que ce besoin de sommeil s'explique tout naturellement.
Assurément, dit Madame Courteheuse.
Là-dessus, bonsoir. Et puisque vous avez envie de dormir, allez vous coucher. Madame Courteheuse fut obligée de donner le bras à son mari pour le ramener. Il dormait debout, il se mit au lit sans avoir conscience de ce qu'il faisait. Pour elle, quand elle se trouva seule dans sa chambre, elle fut prise d'une folle envie de rire qui détendit enfin ses nerfs crispés par l'heure d'angoisse qu'elle venait de traverser. Puis elle se reprocha de s'être laissée prendre par cette angoisse. Cela n'était pas d'une femme dans sa position qui doit toujours être prête à faire tête aux dangers d'où qu'ils viennent. Était-ce ce qui s'était passé entre la Vaupalière et son interne ? Est-ce que ce qui venait de se passer avec le pharmacien ne prouvait pas qu'il n'est vraiment pas difficile de rouler ces gens qui croient tout savoir et qui veulent tout expliquer ?
Oh, ces médecins !
Elle riait encore en ouvrant la porte à la Vaupalière.